Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Il était une fois un roi qui avait trois fils. Quand ils furent devenus grands, il leur dit de choisir chacun un métier, celui qui lui plairait le mieux. L'aîné dit « Je veux être chasseur. Tous les jours, je partirai avec mes chiens dès le matin et je m'en reviendrai à la tombée du soir. »« Je serai soldat, dit le second, et moi marin, ajouta le troisième. » Le lendemain, ils partirent tous les trois. L'aîné alla à la chasse et quand il fut dans la forêt, il vit une bonne femme qui déracinait un petit arbre vert. « Que fais-tu là, vieille sorcière? Laisse mon arbre et va-t'en bien vite. »« Ne me parle pas si durement, jeune homme, » répondit la vieille femme. « Va-t'en ou je vais te battre, » dit le fils du roi. La vieille s'en alla en grommelant et le prince continua à chasser. Il remplit sa gibecière de lapins et de lièvres et son père était bien content de voir qu'il était adroit dans le métier qu'il avait choisi. Le lendemain, le prince retrouva la vieille femme au même endroit. « Sors de ma forêt !» lui cria-t-il. « Je t'avais défendu d'y revenir !» Elle s'en alla sans mot dire. Il continua à chasser et remplit sa gibecière de lapins et de lièvres. Le troisième jour, il vit la bonne femme au même endroit. « Ah, pour le coup, s'écria-t-il, je vais te battre !» Il se mit à la frapper, si fort qu'il la jeta par terre. Elle se releva et disparut. Le jeune prince continua à chasser dans la forêt, et il vit au milieu d'une clairière un lièvre assis sur son derrière et qui le regardait. « Tiens, pensa-t-il, voici un lièvre qui n'est point farouche. » Il voulut le prendre, mais le lièvre se leva, et il marchait du même pas que le chasseur, courant quand il courait, s'arrêtant quand il s'arrêtait. Le prince le poursuivit toute la journée sans pouvoir l'atteindre, et à la nuit, il le vit disparaître dans une caverne où il entra à sa suite. Alors parut devant lui un bonhomme qui avait les dents longues comme la main et qui lui dit « Ce n'est plus à un lièvre ni à une bonne femme, c'est à moi que tu vas avoir affaire. » « Excusez-moi, répondit le jeune prince, je ne savais pas qui vous étiez. « Je vais te tuer, dit l'homme aux grandes dents. Mais le prince se mit tant à le supplier de le laisser vivre qu'il se laissa toucher et lui dit « Je vais t'accorder la vie, mais tu seras mon domestique et tu feras tout ce que je te commanderai. » Il le mena dans son écurie où il y avait deux chevaux. L'un qui était gris avait une rouge pleine d'avoine, l'autre qui était une jument blanche n'avait devant elle que des fagots. « Tu auras soin, lui dit-il, de bien nourrir le cheval gris et de lui donner à boire l'eau de la claire fontaine. Pour la jument, tu la laisseras sans manger et tous les jours, tu la frapperas à grands coups de trique. Je pars pour 6 mois, mais obéis-moi bien ou gare à toi car j'ai une cloche qui m'avertit de tout ce qui se passe ici. » Ce conte est à retrouver dans sa totalité sur le site de Radio Grand Ciel, radiograndciel.fr, rubrique Règlement de compte. Bonjour, docteur Dominique Desmichel.
Bonjour.
Après la lecture de ce conte, je me permets de présenter à nos auditeurs les nouvelles règles de notre jeu, à savoir tenter de décrypter un conte comme s'il s'agissait d'un rêve, raconté par un analysant sur le divan d'un psy, en l'occurrence, vous, docteur Dominique Desmichel. Alors, voilà, je me mets dans la peau du patient qui vous raconte ce rêve. Et j'ai envie de demander, alors docteur, c'est grave?
Bah, en tout cas,
C'est compliqué, en tout cas, c'est pas simple.
Ouais, c'est pas simple du tout. Parce que moi, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille d'abord bien lentement et qu'on essaye de décrypter, de déchiffrer, c'est-à-dire d'abord et avant tout de déplisser ce rêve ou ce conte. Et souvent, dans le déplissage d'un rêve, c'est important de... Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne avec le rêve d'un patient, hein, ou d'un analysant qui vient. On repère les personnages et on essaye de comprendre quel est leur contenu symbolique. Je prends un exemple. quelqu'un raconte un rêve et puis dit « Ah tiens, ça c'était ma copine Marie, pouh là là, ça fait 50 ans que je ne l'ai pas vue, mais je me souviens, on était en CP ensemble. Ah bon, vous l'avez revue depuis ?»« Bah non, je ne l'ai pas revue. Et qu'est-ce que vous diriez d'elle ?»« Ah, Marie, ah bah c'était toujours la première de la classe. » Première de la classe partout, toujours. D'ailleurs, je crois qu'elle était dans la classe à côté, en CM1, puis en CM2, puis en CE1, CE2. Elle était toujours la première de la classe, voilà, toute brillante. Et en gros, elle était hyper pénible et tout le monde la détestait. Alors, voilà, on a, à partir de ce personnage donc contrasté, une figure de celle qui est la plus brillante, et parce qu'elle est brillante, ou parce qu'elle ne sait pas se rendre aimable, ou parce qu'elle a une fonction pensée et qu'elle n'a pas de fonction relation, se trouve être détestée par tout le monde. C'est ça que ça veut dire dans le rêve. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille lentement, qu'on essaye de repérer un petit peu les personnages qu'il y a dans ce conte-rêve, comme vous dites.
Oui, tout à fait. Alors, eh bien, ça commence par un roi qui a trois fils. Alors, le roi, le symbole du roi, on le retrouve évidemment dans quasiment tous les contes.
Oui, le plus souvent, c'est quand même une figure paternelle.
Patriarcale.
Patriarcale, oui, tout à fait. Avec toujours une interrogation, c'est-à-dire dans quelle fonction il est. Il peut être une fonction beaucoup plus de dirigeant, par exemple. Il peut être dans une fonction de succession, par exemple, c'est-à-dire il attend un remplaçant. Il peut être le conjoint d'une reine. Et puis... De temps en temps, il est juste avec un questionnement, il est avec une attente, il vient avec une attente. Hein.
Alors souvent, nous l'avons vu dans plusieurs contes, il y a un roi et une reine, et parfois il n'y a qu'une reine, et parfois il n'y a qu'un roi.
Oui.
Et dans ce conte, au début en tout cas, il n'est pas question de reine.
Je crois que c'est...
Oui. Je veux dire, c'est déjà un indice...
Voilà, je crois que c'est bien important dans d'autres contes, enfin dans beaucoup de contes, la question du couple est fondamentale, c'est-à-dire il y a un roi qui perd sa femme ou il y a une femme dominante, voire dominatrice qui n'a pas de mari ou qui a un mari un peu faiblard ou un peu falot avec un F. Voilà, donc une grande partie des contes viennent nous raconter quelque chose autour de la transmission de l'héritage psychique, de l'héritage affectif, de l'héritage symbolique des parents aux enfants, et viennent raconter quelque chose sur probablement la difficulté d'être parent. On voit ça par exemple dans l'histoire du Petit Poucet, où viennent nous dire combien l'héritage de la polarité masculine et l'héritage de la polarité féminine chez les enfants, c'est pas toujours simple.
Est-ce qu'on peut rappeler que les contes sont souvent basés sur un déséquilibre, lumière-obscurité, masculin-féminin, et que le but du conte va être de rétablir cet équilibre pour que le monde entier, l'univers entier aille mieux ?
Voilà, je crois que on peut vraiment opposer le mythe au conte. Hein, dans la grande majorité des mythes, en particulier des mythes grecs, le personnage du héros est un personnage qui est enfermé en quelque sorte dans son destin et il obéit à son destin et il n'a pas la possibilité d'en sortir. C'est-à-dire, voilà. Alors que dans le conte, le héros va accomplir quelque chose. Et pour reprendre ce mot de destin, on pourrait dire dans le conte, dans le mythe, il y a un destin. Dans le conte, il y a une destinée. Et le conte vient nous dire qu'on peut changer son destin, en gros, inéluctable, le fatum chez les latins, en destinée, c'est-à-dire en quelque chose où on va faire avec son héritage, mais on va pouvoir le transformer.
Alors, déséquilibré, peut-être que le patient l'est, en tout cas le conte l'est, avec déjà trois fils. C'est deux de trop, car notre conte ne va parler que d'un seul d'entre eux.
Oui, ça aussi c'est étonnant. Donc c'est vrai qu'en le lisant tout à l'heure et puis dans les quelques minutes d'échange qu'on a eu ensemble, on se posait en effet cette question. Alors on peut se demander si quand même dans ces trois fils, puisqu'il y a un chasseur, un soldat et un marin, on vient pas là dire quelque chose autour des trois grandes fonctions. Dumézil a beaucoup raconté combien dans les sociétés il y avait en gros le marchand, le guerrier et le prêtre, hein, pour dire. Et on pourrait penser qu'ici on retrouve quelque chose. Le chasseur marin, ça se ressemble un petit peu. Le soldat, c'est une fonction. Ici, il n'y a pas de fonction de clerc.
C'est peut-être ça le problème d'ailleurs.
Oui, c'est pas impossible, hein, qu'il y ait quelque chose d'une fonction transcendante, on pourrait dire,
Un
hein,
manque.
c'est-à-dire, ouais, un manque, hein. Alors, parce que la fonction du prêtre, alors là, on part dans autre chose, mais je trouve que c'est intéressant, votre question, en tout cas. Finalement, dans cette fonction du prêtre, on retrouve quelque chose du côté du religare, hein, du religare ou du religere, c'est-à-dire de ce qui relie, de ce qui va faire du lien, ou religere, c'est-à-dire on va relire, au fond, c'est-à-dire se confronter, essayer de comprendre. Et souvent, dans ce religare, il y a une fonction qui est très associée au féminin, hein. Donc on pourrait dire, pour l'instant, il n'y a que des figures masculines avec des choses, on pourrait dire, très viriles. Hein. Le chasseur avec son gros fusil, c'est quand même viril. Le soldat avec son arme, son épée, ou là aussi son fusil, c'est très viril. Et le marin avec son navire. Enfin, on sait bien que sur les marins, on va pas mettre des femmes, quoi. C'est pas sérieux. Hein. Soyons sérieux. Faisons ça bien entre nous.
C'est aussi trois professions qui demandent de partir de son foyer, puis qui sont relativement solitaires, du coup. Enfin, en tout cas, qui interdisent la vie de couple, ça c'est sûr.
Oui, c'est vrai. Oui, je trouve que c'est très juste ce que vous dites, hein.
Et donc très viril.
Oui.
Alors, le premier, l'aîné, choisit donc d'être chasseur. Donc il partira avec ses chiens dès le matin et je ne m'en reviendrai qu'à la tombée du soir, dit-il. Le deuxième prétend être soldat et le troisième marin. Le lendemain, ils partent tous les trois et nous allons donc suivre seulement les traces de l'aîné qui part à la chasse. En sachant que dans notre conte, étant donné qu'il s'agit d'un rêve, docteur Dominique Michel, les trois fils ne font peut-être qu'un.
Oui, probablement, probablement. Et puis, en tout cas, se retrouver dans la forêt, ça, sur le plan symbolique, l'idée de la forêt était c'est une image que l'on retrouve dans énormément de contes,
Le
énormément de rêves.
chasseur également, hein, dans les
Oui,
contes, en tout cas, dans les contes,
oui,
oui.
oui, 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 oui. Je ne sais pas s'il y a trop de chasseurs dans les rêves
Dans les rêves.
contemporains, mais les forêts,
Forêt,
les
oui.
plages. La mer, ce sont des choses qu'on retrouve. Voilà, je pense rien que depuis le début de la semaine. Hein, aujourd'hui, on est jeudi, on enregistre. J'ai écouté peut-être une dizaine ou une quinzaine de rêves depuis le début de la semaine. J'en ai au moins deux ou trois qui me reviennent et qui se passent au bord d'une plage. Un au bord d'une plage, je suis sûr, et un autre qui se passe à la lisière d'une forêt. Hein. La forêt, ça représente quoi? Le plus souvent, l'espace qui n'est pas déchiffré, défriché. L'espace qui est le lieu de l'origine, hein, c'est-à-dire au début, tout était la France entière et peut-être l'Europe était couverte de forêts. Et puis, donc ça représente quelque chose de l'ordre de l'inconscient,
Un espace sacré également. Je pense aux druides, je pense au silence qu'on fait en forêt naturellement quand on se promène sous les immenses fûts de chêne.
Je mettrai une petite nuance. Ce que vous dites est très juste, mais ça ne se passe pas, à mon avis, dans la forêt. Ça se passe dans la clairière qui est dans la forêt. Donc, au fond, on pourrait dire ici, il y a un espace déchiffré qui est dans un collectif. Hein. Donc, il y a bien la forêt, mais ce n'est pas une forêt sauvage, c'est une forêt déjà habitée. Hein. Donc, les druides, là, ici à Chartres, hein, à la forêt
Sur
des
une des
Carnutes,
carnutes, oui.
eh bien, se retrouvaient dans une clairière. Donc il y a en effet ce collectif archaïque, cette globalité, cette dimension cosmique, mais il y a quelque chose d'une présence de l'homme qui a été quand même organisée,
En
il
tout
me
cas,
semble.
ça reste un espace merveilleux, avec
Oui.
souvent le repère de la sorcière, de l'ogre, ou des
Voilà.
animaux qui se mettent à parler,
Voilà.
et la forêt semble vivante.
Puis c'est le lieu des loups quand même aussi,
Et des loups,
hein.
n'oublions pas les
Voilà.
loups.
Ouais, tout à fait, hein.
Alors, justement, dans cette forêt qui est habitée, notre héros, qui n'a pas de nom, hein, c'est un héros
Ouais.
anonyme, hein, il va rencontrer eh ben, une sorcière, en tout cas une vieille femme,
Ouais.
qui prend tout de suite pour une sorcière, qui est en train de déraciner un petit arbre vert. Alors ça, c'est riche de symboles également, hein.
Voilà, moi je pense que ça c'est sûrement important. Alors, c'est vrai que le comte va nous raconter qu'il n'est pas du tout gentil avec la dame, et dans notre savoir un peu sur les contes, on a envie de se dire, oh là là, il n'est pas gentil avec la dame, il va lui arriver des gros malheurs après. Puis en fait, on s'aperçoit que c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Alors, qu'est-ce que ça me donne à penser à moi, mais peut-être vous direz votre opinion aussi, il déracine un petit arbre vert, c'est-à-dire, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de l'enfant, hein. Donc, ça me donne à penser que, à partir d'une jeune pousse, à partir d'un arbrisseau, à partir de quelque chose qui est encore en devenir, il y a une figure sombre
Qui va l'anéantir.
Qui va l'anéantir. Voilà, hein, je pense que ce n'est pas du tout la même chose s'il s'agissait d'une femme qui avait coupé son bois pour faire son feu, c'est-à-dire qui avait ramassé du bois mort. Voilà, ici, il y a quelque chose. Donc, voyez combien c'est important d'être attentif, et vraiment, je crois que c'est bien important que vous souligniez ça, ce petit arbre vert.
Dans son inconscient, voilà. Quelque chose était en train de pousser.
De pousser.
Qui était plutôt positif, vivant, positif, en devenir, appelé à faire de grandes choses.
Oui.
Il se passe un événement qui fait que comme cette petite flamme d'espoir est éteinte, oui. Et cet arbre est déraciné.
Oui, d'ailleurs.
Oui, par une vieille femme, par une sorcière, donc évidemment par quelque chose d'obscur.
Tout à fait, ouais. qui habite le cœur de la forêt. Et d'ailleurs, il dit, que fais-tu là, vieille sorcière ? Laisse mon arbre, laisse mon arbre et va-t'en bien vite. Hein ? Laisse mon arbre. Donc, c'est comme s'il y avait une espèce d'identification entre les deux personnages, et comme si, au fond, la figure inconsciente de ce jeune homme, c'était l'arbre. Hein. C'est-à-dire, lui, sur le plan de la sphère consciente, il est un homme qui doit grandir afin de devenir un jour roi. Et puis là, dans son inconscient, le scénariste de son inconscient lui dit... Il y a un danger, puisqu'au fond, il y a une figure de sorcière qui est en train de démolir ton devenir inconscient, il me semble.
Docteur Dominique Desmichel, nous en sommes au tout début de ce conte, La Belle aux Clés d'Or, et nous sommes donc dans la forêt avec le fils du roi, l'aîné des trois enfants, qui chasse tout simplement et qui va tomber sur une sorcière. Et cette sorcière va revenir, comme dans beaucoup de contes, plusieurs fois, trois fois exactement. Alors, nous en sommes à la première fois. L'aîné rabroue la vieille femme qui s'en alla en grommelant. Et je cite, « Le prince continue à chasser, il remplit sa gibecière de lapins et de lièvres, et son père était bien content de voir qu'il était adroit dans le métier qu'il avait choisi. » Le premier jour se passe presque sans encombre. Sauf qu'il a cette blessure de la sorcière qui paraît peut-être anodine sur le coup, mais qui va faire des dégâts, évidemment.
Cette blessure que la sorcière lui fait au fond en lui-même. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire, il s'identifie en quelque sorte à cet arbre, et la forêt recèle une sorcière qui est négative pour lui.
Hein. Mais il lutte contre cette sorcière quand même. Hein.
Ouais,
il a conscience du mal, ouais. et il lutte. Le lendemain, le prince retrouve la vieille femme au même endroit. Et rebelote, il lui défend de revenir dans sa forêt. Elle s'en va. L'aîné chasse toute la journée, remplit sa gibecière de lapins et de lièvres. Et le troisième jour, là, ça commence à bien faire. La vieille femme est encore là. Et là, il se met à frapper.
Alors, c'est important, cette histoire de frapper. Alors, évidemment, dans notre vieux ou jeune fond humaniste...
Qui... On frappe pas les vieilles femmes.
Non, ça se fait pas trop, même si c'est des vieilles sorcières. Je pense que c'est bien important de se rappeler que le conte n'est pas une leçon de morale, même si en général, M. Perrault, à la fin de ses contes,
ouais,
en faisant une sacrée morale, il raconte quelque chose de l'ordre du psychisme. Donc, On peut se demander quel est le statut de cette vieille femme, mais comme la suite du rêve va nous dire que ça se passe un petit peu dans les profondeurs des cavernes du diable, on se dit que c'est une figure négative et que il y a une histoire de violence qui a l'air d'être un petit peu défensive, en tout cas. Hein.
Est-ce qu'on peut parler de lutte intérieure, déjà, de tiraillement de... Est-ce que la sorcière peut représenter des pulsions, peut représenter... évidemment, le côté obscur de son inconscient.
Moi, j'aurais envie de vous dire, là où j'en suis, j'en sais rien.
On n'en sait rien.
J'en sais rien. Ce que je me dis, là, c'est que il ne faut pas oublier que c'est pas simplement... Vous savez, il y a des contes où, par exemple, on retrouve un petit poisson qui est au bord de... sur la rive, et le héros arrive, il voit le petit poisson, il le remet dans l'eau. Et puis le petit poisson dit « Ah ben c'est gentil, je suis le roi des poissons, quand tu auras besoin de moi, je viendrai t'aider. » Là, on n'est pas dans la même chose, c'est-à-dire on est dans le fait que ce jeune homme, pour devenir grand, c'est-à-dire pour succéder à son père, c'est-à-dire passer du statut de prince au statut de roi, il doit aller faire un petit tour dans son inconscient. Et qu'est-ce qu'il rencontre dans son inconscient? Il rencontre une figure négative qui est en train de détruire au niveau inconscient sa capacité à grandir par le biais de l'arbre, du jeune arbre. Donc, moi, pour l'instant, j'avoue que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. J'aurais envie de dire, du côté du féminin, il n'y a pas de reine. Et du côté d'un féminin à l'intérieur de la tête ou de l'inconscient de ce jeune homme, ben pour l'instant, il y a une sorcière.
Nous parlions tout à l'heure de la forêt, nous parlions d'une clairière. Eh bien, voici une clairière au centre de laquelle se trouve un lièvre assis sur son derrière qui regarde le jeune prince. Et eh bien, le jeune prince se dit, voici un lièvre qui n'est point farouche.
Oui, moi ça m'intéresse parce que vous voyez, ça me donne le sentiment que dans ses allers-retours avec son inconscient, il est en train de prendre conscience de quelque chose. Donc avant, il y avait les lapins et les lièvres, et il était juste dans la capacité de les transformer en nourriture en les ramenant dans son conscient. Hein, ce que nous, on fait tous, c'est-à-dire on va puiser des nourritures inconscientes et on va les ramener dans notre conscient pour nous aider à vivre. Là, c'est la troisième fois qu'il y va et il va rencontrer une figure avec laquelle il va falloir qu'il élabore quelque chose. Donc, ce lièvre n'est pas farouche et on voit, le texte le dit, le lièvre se leva, il marchait du même pas que le chasseur, courant quand il courait, s'arrêtant quand il s'arrêtait. Donc, on voit bien ici qu'il y a une sorte d'homothétie entre les deux, c'est-à-dire le lièvre qui est là, c'est la figure inconsciente du jeune prince. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, on va continuer à voir.
Mais qui est mené par le bout du nez, en tout cas par ce lièvre, et qui le conduit jusque dans une caverne.
Oui.
Alors là, ça paraît clair aussi d'un niveau, d'un point de vue psychanalytique, la caverne. Évidemment, on ne s'attend pas à trouver le bonheur dans une caverne. Quoique.
Oui.
En tout cas, ça ne sera pas dans ce conte-là.
en tout cas, nous, la caverne, ce n'est pas le lieu où l'on vit. Hein. Ça peut être un endroit où on se réfugie, ça peut être un endroit où on est abrité. Ça renvoie quand même souvent à une sorte de ventre ou de grand ventre maternel quand même, hein, le plus souvent, hein, ces espaces clos.
On est déjà dans une forêt, donc on est déjà dans un endroit relativement sombre de l'inconscient du héros. Et dans cette forêt, eh ben, il y a encore des endroits encore plus sombres qui sont cette caverne,
oui.
Qui sont quand on creuse, ben, ce qu'on est en train de faire, quand on creuse un rêve, quand on creuse à l'intérieur de nous-mêmes, eh ben, on peut aller encore plus profond.
Je pense que souvent, les analysants, quand ils apportent un rêve, surtout si ce rêve a une tonalité lourde, un peu dramatique, voire une tonalité affective forte, ce qui fait qu'on l'appelle ça un cauchemar, hein, ils sont inquiets. Mais les rêves ne nous racontent pas ce qui est juste pour nous. Ce qui est juste, on le vit bien. Donc, les rêves, j'allais dire, les plus effrayants, ont l'avantage, dans la mesure où on peut les comprendre, ce qui n'est pas toujours le cas, ont l'avantage de venir nous montrer, nous mettre en scène, nous présenter quelque chose de nos conflits à l'intérieur de nous-mêmes. Donc vous voyez, là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un bonhomme qui a les dents longues.
Oui, parce que c'est à l'intérieur de la caverne, évidemment, il va tomber sur un bonhomme avec les dents longues qui va s'avérer être le diable. Hein.
Oui, oui. Voilà.
Ce n'est plus à un lièvre ni à une bonne femme, c'est à moi que tu vas avoir affaire.
Oui. Et là, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. C'est-à-dire, le jeune prince dit « Je ne savais pas qui vous étiez ». Alors ça, on voit vraiment ça dans les rêves. Hein. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle ces figures d'ombre. Alors, je dis un tout petit mot sur ce que c'est que l'ombre. En gros, l'ombre à l'intérieur de nous-mêmes, c'est l'ensemble de tous les personnages que l'on n'aime pas en nous ou qui n'ont pas pu se déployer. Donc, c'est important d'avoir les deux notions. Parce que les personnages qui incarnent notre ombre, c'est pratiquement les premiers qu'on rencontre dans les rêves. Hein. Quand les gens viennent en analyse et qu'ils racontent des rêves, le plus souvent, ils sont confrontés à des personnages d'eux-mêmes qu'ils n'aiment pas. C'est ce qui est la source de leur conflit intérieur. Hein. Voilà. Donc là, on a l'impression ici qu'il y a un personnage sombre, qui là est un personnage plutôt masculin, ici, en tout cas qui a des grandes dents, et qui a une pulsion meurtrière vis-à-vis du moi du sujet. Hein.
Alors, un pacte va se nouer entre notre héros et le diable, car pour ne pas le tuer, le diable lui propose tout simplement de devenir son domestique.
Voilà.
Le mène dans une écurie où il y a deux chevaux, l'un qui était gris, avec une auge pleine d'avoine, l'autre qui était une jument blanche, et qui n'avait devant elle que des fagots.
Donc ça, c'est bien important d'abord de prendre un tout petit peu de temps sur la notion de domestique.
On est assujetti à quelque chose, en tout cas.
Voilà. Or, dans la majorité des situations où un personnage d'ombre apparaît dans un rêve, le récit du rêve montre que le moi du sujet, c'est-à-dire en général c'est « j'étais dans mon rêve et voilà ce qui m'arrivait hein, », le moi du sujet est, pour reprendre votre terme, assujetti à ce personnage. Hein. C'est-à-dire il y a dans le rêve une espèce de conflit entre un personnage d'ombre et puis soi-même. Dans les rêves, dans la grande majorité des cas, ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'il y a d'autres situations, mais le plus souvent, une des incarnations de l'ombre du rêveur a le même sexe que le rêveur. Hein. Le plus souvent, voilà, si c'est un homme, ça va être un homme. Si c'est une femme, c'est une femme. Alors que quand il s'agit de l'autre polarité symbolique d'un individu, on va voir un personnage de l'autre sexe. Hein. Par exemple, le féminin chez un homme, le masculin chez une femme. Hein. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose qu'on peut comprendre. C'est-à-dire, si on résume ce qu'on a peut-être tenté d'explorer là, tous les deux depuis le début, il y a un jeune homme qui se cherche. Pour se chercher, il retourne dans son inconscient. Là, il découvre quoi ? Il découvre qu'il y a quelque chose de sombre qui l'empêche de grandir et qui est en train de menacer le fait qu'il grandisse. Et que ce personnage est finalement un personnage d'ombre qui va l'assujettir ou qui déjà l'a assujetti. Hein. C'est-à-dire, dans son conscient, il n'est pas à même de pouvoir agir et de choisir en liberté. C'est-à-dire, sa fonction d'évaluation à l'intérieur de lui-même de ce qui est juste et bon dans sa vie, c'est pas au point.
Eh bien, docteur Dominique Desmichel, c'est avec ce parfait résumé de cette première partie du conte que nous allons achever notre émission et je vous propose de nous retrouver dans 15 jours pour poursuivre cette exploration.
Dans 15 jours. Au revoir.